things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jordan Fuentes. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Elisabeth Philippe et Laurent Nunez. À notre sommaire, Sex and Rage, Dev Babitz au Seuil. Marie Galante d'Emelaine Landon chez Gallimard. Un coup de cœur de Laurent Nunez pour La Passion de l'Impossible, on le savait, hein, chez vous. De Dominique Rabaté chez José Corti. Et puis un petit salon de Lucille Como qui sera consacré au polar. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Behind the Game, l'expo au cœur d'Assassin's Creed. C'est jusqu'au 6 février à la Gaîté Lyrique à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec Sex and Rage, Dev Babitz au Seuil, remarquablement traduit par Yakutal Kavazovic. Ce roman a été publié en 1979 par F. Babitz, donc figure majeure de la scène hippie arty des années 60-70. D'abord photographe, Babitz a signé les pochettes d'albums pour les Buffalo Springfield, pour les Burns, mais aussi elle figure sur un célèbre cliché qui montre Marcel Duchamp jouant aux échecs contre une femme entièrement nue, Eve, naturellement. Elle commence à publier des romans au début des années 70, livre également des chroniques à Rolling Stones, à Vogue, à Cosmopolitan, à Vanity Fair. Alors préparez-vous avec Sex and Rage à rencontrer un personnage, Jacaranda Leven, une sorte de quintessence de la Californienne, on va en parler. Elle aime aussi le sexe et le sun, mais elle partira aussi pour New York. On verra comment elle résiste à la grosse pomme. Précision utile, Jacaranda Leven ressemble beaucoup à Eve Babitz.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for many a long year.
West Hollywood, dans les années 60, quand la vie n'était qu'un long rock'n'roll, était facile à vivre avec ses trois pièces à $120 par mois et ses propriétaires rompus à toutes les excentricités. Bien sûr, cela existait, des familles avec enfants et chiens, mais la plupart des résidents de West Hollywood étaient dealers de drogue, rockers, managers, groupies, serveurs mais en vrai acteurs, écrivant les scénarios à leurs heures perdues, écrivains pendant quatre scénarios chacun et touchant les allocations chômage. Et des coiffeurs, des mannequins de publicité, des gens plutôt jeunes aussi, sans revenu évident, vivaient également dans le coin entre Melrose et Sunset Boulevard, de la Brie à Donaghy. Dans les années 60, West Hollywood était comme une ville ouverte, un port au croisement de toutes les directions. Jacaranda buvait du Thousand Comfort avec d'adorables jeunes gens fortunés qui, souvent, étaient intelligents et elle passait de plus en plus de temps dans les belles demeures surplombant Hollywood et Beverly Hills où les ambulances se perdaient souvent et où de beaux diables assis sur leurs amplis se défiaient sur tous les plans, chansons, blondes, tranquillisants, à qui mieux mieux. Elle assista au Monterey Pop Festival, même si elle ne sut jamais comment elle s'y était rendue, comment elle en était rentrée, ni ce qu'elle y avait fait durant deux jours. Tout le monde gobait de l'acide sunshine et fumait une herbe nommée Ice Pack. Sans parler, bien entendu, des flots de tequila, de rhum et de courvoisier que la scène rock'n'roll découvrait après avoir décidé que l'herbe seule ne suffisait pas. Elle portait des pantalons en satin moulant et des corsages en satin violet. Sa tignasse tombait dans son dos, mèche blondie, un grand ébouriffement décoloré. Elle passait un temps considérable face au miroir, à mettre de l'eyeliner marron, du blush mauve, essayant d'y voir quelque chose sous sa frange qui lui tombait toujours sur le nez et lui donnait l'air plus doux et plus vulnérable quand elle se taisait sans sourire. « Je déteste le rock'n'roll », déclara-t-elle un soir, en plein concert des Stones au Forum, et elle partit. C'est une bonne entrée pour vous, Elisabeth Philippe. Le public vous acclame. Pour parler d'Eve Babitz.
Eve Babitz, donc comme vous l'avez dit, son héroïne Jacaranda Leven présente pas mal de points communs avec elle. Mène la même vie trépidante à Hollywood, avec une vie arrosée de pas mal d'alcool, cocaïne, Quaalude. Une vie parmi les rockstars, puisque lapsus. Eve Babitz est aussi connue, même si on n'aime jamais tellement présenter une femme par les amants qu'elle a eu.
Je l'ai pas dit, moi.
Mais je vais le faire. Je
assumais. La liste est longue, ça dit. On n'a pas.
La liste est longue, mais citons Jim Morrison, Harrison Ford, Steve Martin. Elle ne s'en cache pas du tout et elle ne le regrette pas. Et son héroïne, Jacaranda Leven, pure californienne comme elle, mène une vie tout aussi. Non pas dissolue, mais on va dire extravagante, aventureuse. Comme Eve Babitz, Jacaranda Leven est la fille d'un violoniste qui travaille pour les studios de cinéma. Elle évolue donc... Il y a une forme de dichotomie, de scission qui va en fait être au cœur du livre. C'est à la fois une pure créature de la côte ouest qui fait du surf, qui ne jure que par l'océan, qui a donc ses mèches blondies, qui passe toute sa vie en short en jean. Et cette créature, cette espèce de sirène déglinguée, est aussi nourrie de toute la culture de la côte Est. Mmh. Donc c'est une très grande lectrice. Quand elle part faire du surf à Hawaï, elle emmène Marcel Proust avec elle. Donc il y a vraiment cette...
On parle du livre, bien sûr.
Oui, elle emmène la recherche avec elle et non pas ce
pauvre
Marcel en chemise hawaïenne. Ça pourrait être assez cocasse. Et donc cette dichotomie est au cœur du livre puisque la première partie se déroule à Los Angeles. Donc là, c'est vraiment cette vie de patachon, de patachonne, je ne sais pas si on peut le féminiser, de Jacaranda Leven, qui, comme le surf, à un moment, elle se compare à un bout de bois flotté. Et effectivement, elle se laisse un peu porter par les vagues, par le flot, par les rencontres, les différents amants qu'elle croise. Et elle se retrouve à un moment embarquée au bord de ce qu'elle appelle une barge. En fait, c'est la jet set, c'est ce petit milieu très superficiel, très cruel qu'elle côtoie et qu'elle dépeint avec énormément d'humour, parce que c'est certes un livre qui a été publié en 79, mais pour moi c'est un livre qui est plus moderne que les trois quarts de la production éditoriale actuelle. Faudra lire quelques passages, je pense, pour vraiment, il y a celui que vous avez lu, mais il y a tellement de formules qui sont comme des petits haïkus glamour, c'est très sexy, je trouve pas d'autres mots, mais je trouve que c'est vraiment un livre extrêmement sexy, pétillant. Et donc il y a cette première partie à Los Angeles. Et la seconde partie, c'est le moment où Jacaranda devient écrivain. Et là, ça se passe à New York. Donc on retrouve cette scission qui était vraiment constitutive de la personnalité d'Eve Babitz dans ce livre et dans ces deux parties. Et effectivement, pour encore revenir sur les points, les similitudes entre l'héroïne et l'auteur, il y a juste une allusion à la photo de Marcel Duchamp, parce que c'est vraiment devenu l'emblème, le fait d'armes majeur d'Eve Babitz. Enfin, majeur non, puisque ce sont ses livres. Et elle en parle dans le livre, puisqu'à un moment, justement, elle se rend chez un de ses amis de la Jet Set et elle tombe sur cette photo. Et elle écrit « Des tableaux partout au mur, Jasper Jones, Rauschenberg, une piscine de David Hockney et une immense aquarelle pornographique de John Altoun. À droite, près de l'entrée, une photographie soigneusement encadrée de Julian Vassar. Marcel Duchamp jouant aux échecs avec une jeune femme nue. Le contraste entre Duchamp, ancestrale petite personne toute racornie, et la chair à la Rubens de la plantureuse jeune femme n'était pas, contrairement aux échecs, subtil du tout. Et cette photographie était l'unique chose au mur de Max que les gens regardaient vraiment. Même l'œuvre pornographique d'Altoun était légèrement trop raffinée pour éveiller un réel intérêt. » Et tout est amené comme ça avec une fausse désinvolture, une fausse nonchalance. Et en fait, c'est très, très acéré. Et c'est ce mélange aussi que j'apprécie énormément dans ce livre.
Laurent Nunez, premier regard sur ce Sex and Rage, qu'il faut traduire par sexe et fureur, ce qui se trouveront dans les dernières pages du livre.
Oui, quoi? J'avais ma main sur la bouche, parce que je suis assez bougon, moi, ce livre m'a rendu très bougon.
Bah, gardez votre main sur votre bouche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Laurent Nunez?
Je suis triste, hein, j'aurais bien voulu
bougon, pourquoi
aimer un livre qui s'appelle Sex and Rage, mais... Là où on pourrait voir de la désinvolture, moi j'ai vu une grande superficialité. C'est-à-dire que j'ai vu un roman américain, c'est-à-dire un roman à la morale américaine. Un roman où on descend, où on voit les affres de d'une vie de patachon. Ou de patachonne. Et où on remonte... essayer d'écrire tout ça, passant d'une ville à une autre, avec une métaphore du surf, qui, si on l'a pas compris, est expliquée encore à la fin, et des blessures qui disparaissent lentement sur la cuisse et tout. Tout ça m'a semblé, je vais vraiment être très très bougon, ça m'a semblé le contraire du modernisme, de la modernité. J'ai vu quelque chose, moi, j'ai appris que la vie, il y a des hauts et des bas, mais qu'il faut croire en ses rêves. Voilà.
Oh non.
Voilà.
Alors, on va perdre Elisabeth Philippe si vous lancez des choses comme ça. Il n'y a pas Florent Georgescu, alors c'est pas pour être violent. Comprenez?
Non, mais c'est-à-dire que vraiment, j'essayais de comprendre pourquoi ce livre était auréolé peut-être comme ça d'une gloire et pourquoi il a mis si longtemps à être traduit.
Déjà, il y a l'écriture. Enfin, vous pouvez pas le réduire à un thème qui, en plus, à mon avis, vous faites un peu fausse route en le résumant de la sorte. Je pense vraiment pas. Enfin, c'est pas du tout moral chez Eva Bitsat. On pourrait parler de rédemption, mais c'est pas du tout présenté comme ça.
Et il y a ça. Elle part, elle devient un écrivain. Pour écrire ces choses-là, c'est la toute fin. D'ailleurs, c'est à présent, elle pourra le raconter. Moi, j'y ai. J'ai pas vu. C'est pas du moralisme d'ailleurs, parce que justement, je crois qu'à chaque fois, elle s'interrompt. C'est très superficiel. Il y a rien. Moi, j'ai vu des scènes. Dans chaque page, on peut être. Il y a plein d'aventures. On pourrait peut-être tirer plein de nouvelles. J'ai vu plein de gens passer. On boit du coca pamplemousse et on prend des acides. Mais
c'est pas que ça.
Non, je sais,
mais... La petite voix a parlé, mais on n'a pas encore entendu celle de Lucille Comeau avant de revenir vers vous deux. Lucille Comeau sur ce livre d'Eve Babitz.
Non, moi, j'ai beaucoup aimé le livre, mais je vois aussi ce que Laurent veut dire sur... en fait, c'est un livre qui se présente comme une forme dans un premier temps. Bon, quand on fait l'expérience au début du livre, il y a des chapitres qui sont très courts, qui sont titrés, et il y a un côté très éclaté qui laisse deviner une forme, a priori, un peu fofolle. De fait, c'est un roman assez classique d'initiation, un roman d'apprentissage. Mmh. Et de ce point de vue, en effet, il y a un côté moralisateur, j'irai pas jusque-là, mais je vais y revenir. En tout cas, classique dans la forme, une histoire de rédemption d'une jeune femme qui commence avec des hauts et des bas, et puis ça tire plutôt vers le haut. En revanche, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que donc l'héroïne est une écrivaine, et que son livre à elle, il en est question quand même à plusieurs reprises dans le livre, est un livre de satire, justement. Un livre de satire d'un milieu, le sien, qu'elle écrit. Elle le décrit à un moment donné sur ce milieu, très lié évidemment au cinéma, parce qu'à Hollywood, tout le monde est lié au cinéma, à l'art contemporain, etc., qui prend en effet plein de drogues, il y a énormément de sex and rage partout, sauf que son livre à elle, ce n'est pas du tout ce livre-là. Et moi, j'ai été assez surprise, et je pense qu'il peut y avoir une forme de frustration, je ne sais pas si c'est celle-là, Laurent, en effet, de lire aussi peu de sex and rage dans le livre, parce que, en fait, ça pourrait être le titre du livre qu'elle écrit, que l'héroïne écrit, mais en tout cas, ce n'est pas le livre qu'on nous donne à lire, et je trouve ça passionnant que le livre à l'intérieur du livre soit à ce point un trompe-l'œil. Parce qu'on a un livre qui est assez doux. Finalement, la seule scène vraiment de violence, par exemple, c'est une scène à laquelle l'héroïne n'assiste même pas directement. Et en effet, comme le dit Laurent, hop, on coupe court très très rapidement sur cette scène de violence. En fait, il s'agit d'un tabassage, d'un passage à tabac d'une jeune fille pendant une fête. Et c'est un livre qui a en effet ce mouvement aquatique assez doux de sac, de ressac, que j'ai trouvé très beau et qui, par ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais est extrêmement drôle. Et ce comique-là ne tient pas seulement à une satire facile du milieu qu'on connaît, hippie, arty, des années 60-70. Moi, ça m'a fait beaucoup penser, et là, je rejoins Elisabeth sur son côté vraiment très moderne et très réjouissant du roman américain, un peu à Bret Easton Ellis, mais version douce, dans la manière de décrire ces espèces de personnages qui circulent dans un milieu aberrant, ces fameux adorables jeunes gens fortunés, vous citiez le voilà, qui mangent, les descriptions des menus par exemple me font vraiment penser énormément à American Psycho et à Brad Easton Ellis, ils mangent que du riz complet et du céleri par exemple, cette recette seule revient en permanence. Il y a quelque chose du très bon Brad Easton Ellis pour moi, mais dans un genre plus doux, plus fluide, plus West Coast, on peut peut-être le dire comme ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un grand roman. C'est un grand roman qui est plus que ce qu'il paraît être et certainement plus que le livre qu'écrit l'héroïne.
On n'avait pas eu un peu le même genre de discussion sur un roman de John Didion du début des années 70
qui était très proche de F. Babbitt.
De Brad Easton Ellis aussi.
C'est John Didion qui a encouragé F. Babbitt
voilà,
à écrire.
Donc il y a quand même quelque chose. Moi, je ne suis pas dans la troisième ou quatrième voie là. Il ne s'agit pas de départager, mais. Moi, je n'ai lu que ce livre-là, d'Eve Babbitt. Alors, il y en a un autre, au moins traduit en français, qui est Jean Tranquille. Brève rencontre, vous l'avez lu?
Oui. Et c'est toujours un double d'Eve Babbitt. C'est peut-être encore un peu plus pétillant. Enfin, c'est dans la même veine, exactement.
Parce que la question que je me posais, effectivement, pour répondre aussi à au côté bougon de Laurent Nunez, c'est que j'accepte le livre tel qu'il est, dans la mesure où l'autobiographie est quand même extrêmement forte et que. C'est une restitution d'un parcours. C'est pas quelque chose qui est écrit avec un plan. Je vais commencer à Los Angeles. Mon héroïne va partir à New York et là, elle va devenir. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quand même ça. C'est très collé à sa vraie vie, à son vrai parcours. Et là,
c'est collé à sa vraie vie.
Et du coup, ces éclats, pour moi, sont assez justes par rapport au type de livre que c'était. Vous voyez, c'est pas une œuvre d'imagination totale dans laquelle il y aurait ce parcours moral.
Mais une rédemption, d'ailleurs, c'est une émancipation.
Oui.
Parce que c'est ce qui lui permet. C'est des scènes très belles et même l'émancipation d'une femme, puisque quand elle parle de la jet set, en fait, toutes les femmes assez jolies comme elle, ces jeunes filles plutôt, elles sont interchangeables et éjectables.
Elle meurt d'overdose.
Et la littérature, c'est une façon de s'en émanciper aussi. Donc, moi, je parlerais plus d'émancipation que de rédemption. Et je suis vraiment très peinée.
Juste sur la douceur, moi, je trouve qu'il y a aussi une très grande mélancolie, malgré tout. Même la satire dans la mélancolie, moi, j'aime bien ce mélange-là, parce que ça produit, en effet, une sorte d'humeur à la lecture qui est très particulière, qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et jusqu'à la toute fin du livre, que j'ai trouvé vraiment très belle. Elisabeth Philippe.
Mais je disais que j'étais très peinée que Laurent m'a été rendu bougon par ce livre, parce que pour moi, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un livre extrêmement euphorisant. Certes, il y a cette mélancolie que vous évoquez, qui est tout à fait présente. Mais douce. Et puis, par l'inventivité stylistique, par ces formules toujours un peu déroutantes, surprenantes, ça crée des effets de télescopage comme ça, assez réjouissants. Donc, pour moi, c'est
très drôle, en effet.
Et très drôle. On aurait vraiment envie de citer énormément de passages, parce que ça passe par des petites... Des petits détails, vraiment juste un mot, pas tout à fait à sa place, un peu en décalage, qui va créer un effet de surprise et qui, moi, je trouve très, très réjouissant, très aussi pétillant que c'est ce champagne qui coule à flot. Donc, et vous parliez de Bret Easton Ellis, on parlait aussi de John Didion. Pour moi, en fait, F. Babbitt, elle s'inscrit vraiment dans ce groupe, enfin c'est pas un groupe parce que ce sont des personnalités tellement singulières, mais de romancières ou d'écrivaines américaines des années 70 qu'on redécouvre aujourd'hui. Je pense à Lucia Berlin, on avait parlé ici. Manuel à l'usage d'une femme de ménage. Ou également Renata Adler. Donc des écrivaines vraiment extrêmement singulières, fort d'une liberté très rare, je trouve, et je sais pas pour quelles raisons on les redécouvre aujourd'hui, mais en tout cas, Babbitt, après un accident de voiture en 97, depuis cet accident de voiture, elle vit recluse. Donc, de cette vie, c'est un peu comme si Kim Kardashian était devenue Salinger, en fait. Et malgré cet arrêt.
Pas sûr que ça la guette, mais bon.
Non, mais elle a arrêté d'écrire, et malgré cela, elle est redécouverte aussi aujourd'hui aux États-Unis, et il y a vraiment un culte autour de son nom. Il y a même une série qui va être adaptée de son premier livre qui n'a pas été traduit en français. Donc, c'est amusant ce regard autour de ces autrices des années 70.
Laurent Nunez.
Je rajouter que, en effet, quand je l'ai lu, il y a moi qui crois jamais en l'opposition entre le fond et la forme, là j'ai bien été obligé de la reconnaître parce que c'est impeccablement traduit. En tout cas, c'est très bien écrit par quelqu'un qui est aussi un écrivain, qui est Jakuta Alikavazovic, et qui vraiment, j'étais à la fois, je remarquais à chaque fois que la traduction, enfin, les phrases, chaque mot est à sa place, et qu'en même temps, le fond me laissait perplexe.
Un dernier mot, Lucille Comeau, sur Sex and Rage.
Non, je trouve que justement, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous, Laurent, parce qu'il y a un style, c'est pas seulement de la forme, et que du coup, là, moi, ce style-là, qui est tellement particulier et qui tient beaucoup à la syntaxe, je vais juste lire une phrase, parce qu'il y a des inversions, des choses très étonnantes. Par exemple, la ville New York sautait sur l'occasion de conférer une facette démente à tous les faits et gestes de Jaraconda. Enfin, je sais pas, c'est ce genre de, d'opposition dans les phrases qui est extrêmement drôle et qui, en fait, vernit un peu la chronique sociale et finit par l'écraser tellement que ce n'est plus du tout ça. Je veux dire, la question n'est plus du tout celle de la chronique ou c'est pas les caractères, enfin c'est pas du tout une question morale derrière et justement et on peut pas à mon avis voir le livre juste à cette aune là.
La chronique sociale est très réussie du reste, elle est
je le trouve même pas parce que je trouve qu'on ne sait rien vraiment de ce milieu, on en sait assez
mais
peu.
Mais les quelques petits ça fonctionne vraiment par vignette, par à la en quatrième de couverture, on voit une photo, des photomatons d'Eve Babitz, et c'est vraiment par photomaton, par vignette, ce livre. Et je trouve, par exemple, sur la Jet Set, c'est en quelques lignes, mais c'est extrêmement bien rendu et restitué.
Bon, avis partagé, pour partie. Sur Sex and Rage, d'Eve Babitz, aux éditions du Seuil, traduit par Yakuta Alikavazovic. À suivre dans la dispute, Marie Galante d'Emelène Landon, un coup de cœur de Laurent Nunez et un petit salon de Lucille Gomeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute littérature avec Marie Galante d'Emelène Landon, publiée chez Gallimard. L'autrice était la compagne de Paulo Tchaïkovski, Laurence, mort le 2 janvier dernier dans un accident de la route à Marie Galante, présente avec lui dans la voiture. Emelène Landon a été d'ailleurs grièvement blessée dans cet accident. Le couple avait déjà été à Marie Galante un an avant. Deux séjours, le premier et le dernier, et quelques éclats de l'année entre les deux.
Ukraine, c'est le pays de nos désirs. Ukraine, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Ukraine, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie l'étoile est conçue. C'est Ukraine, Ukraine.
Avec moi, Paul partage son temps illimité. Paul construit sa vie autour de la lecture. Il en fait son métier, choisissant de publier parmi des manuscrits que les écrivains lui envoient par la poste ceux qu'il aime. Pour le plaisir d'ouvrir les enveloppes, de plonger dans les mots des autres et pour se retrouver face à un manque, son manque. Comment nommer ce qui nous manque ? Paul dit que les livres ne nous apportent pas quelque chose, ils nous retirent quelque chose. Paul prononce parfois de telles phrases, mais ce qui compte pour lui reste avant tout la lecture, plutôt que ce qu'il en dit. Les saisons passent à Paris en 2016 avant notre départ pour Lille. Printemps, été, automne, début de l'hiver. Les saisons littéraires et leurs différents creux, 4 ou 5 nouveaux livres paraissent tous les mois, la vie au bureau, les conversations téléphoniques dès 7h du matin avec Jean-Paul, son associé et meilleur ami, où que nous soyons. Une trentaine de manuscrits reçus par jour, la lecture partout des manuscrits ainsi que les derniers travaux des auteurs de la maison. Et notre vie au calme. Nous passons souvent nos week-ends à mon atelier. Paul lit, je peins et écris, nous mangeons des huîtres. Nous y restons la nuit, nous couchons tôt pour nous réveiller comme en haut d'un grand mât au-dessus d'une barque. La perspective est étonnante, joyeuse. Nous passons les autres nuits chez nous, dans notre appartement. Paul préfère baisser le store de notre chambre, dont la vue surplombe sans vis-à-vis la rue des Martyrs jusqu'à la tour Montparnasse et une petite ligne de collines visible tout au sud de Paris. J'aime que le store soit monté pour voir le ciel et me sentir comme un oiseau. Nous changeons de côté du lit toutes les nuits. Nos enfants respectifs sont adultes, les petits-enfants grandissent. Laurent Nunez, pour commencer à parler de Marie Galante, qui est aussi le titre d'un opéra de Kurt Weill, qui est cité dans ce livre, et cité aussi ce petit film que Mathieu Amalric a réalisé pour la troisième scène de l'Opéra de Paris, où on a entendu la Barbara Hannigan chanter.
Oui, c'est un petit livre, c'est un tout petit livre qui tient dans la main et qui m'a surpris par la pudeur qu'il contient. C'est les deux dernières vacances d'hiver de deux êtres qui sont entourés d'artistes, de livres, d'expos, de films, et qui décident parfois pour être seuls, tous les deux, de partir au loin. Et parce qu'une telle vie dévore finalement la vie. Et ils décident de partir et on est dans cette autre vie non parisienne, assez simple, où on fait rien d'autre que lire et peindre, jusqu'à ce que... C'est-à-dire que tout le monde sait ce qui va se passer, puisque on sait que POL, Paul, a eu un accident de voiture en revenant de ses vacances. On sait ce qui va se passer, c'est donc une sorte de tombeau. On lit les derniers moments d'un couple à la fois banal et follement amoureux et en même temps connu. Et ce qui est assez beau et assez moderne, c'est que c'est pas un tombeau au sens où on regrette tout le temps l'absence de l'autre, parce que l'autre est là. C'est un livre qui utilise un matériau moderne, qui sont les SMS. Les SMS, les images envoyées, tout d'un coup, voilà, Emlène, comme Duras, c'est Duras, il paraît qu'elle avait fait ça avec l'amant, c'est d'abord elle a pris des photos, elle avait écrit sur les photos, et à la fin elle avait enlevé les photos et ça faisait un livre. Visiblement, Emlène Landon a fait la même chose, elle a laissé les SMS, elle a pas mis les photos. Voilà, il y a des...
Mais les photos sont décrites, par des mots.
Voilà, c'est un couple, follement amoureux, qui s'écrit tout le temps, comme une sorte de tragédie, parce qu'il y a des petits indices, lentement, on va apprendre qu'il y en a un des deux qui va disparaître.
Alors c'est vrai que l'extrait que j'ai lu pourrait laisser croire autre chose, parce que le début et la fin de ce livre sont vraiment, on va dire, écrits par Emlène Landon, et quand même l'essentiel du texte, on va en reparler, sont constitués par ces messages entre les amoureux. Lucille Comeau.
Oui, je trouve que c'est très difficile d'aborder ce livre de la même manière que c'était difficile d'aborder le film de Paul Tchaïkovski-Lorenz, dont on avait d'ailleurs parlé dans l'émission. J'étais tout aussi embarrassée parce que nous, on sait qui c'est en effet, POL, Laurent, vous le disiez. Je suis pas sûre que le lecteur qui achète le livre Marie Galante, d'ailleurs ce n'est pas précisé sur la quatrième de couverture, sache qui est Emlène Landon et quel rapport elle a avec cette personne, et ne serait-ce que ce que représente POL par exemple dans la littérature contemporaine. Donc pour nous, en effet critiques, qui connaissons POL, qui critiquons ses auteurs, c'est pour moi, c'est ma posture, j'ai du mal à imaginer ce que peut être une autre posture purement de réception du livre. Donc déjà, ça me pose un peu problème. Ensuite, vous le disiez, il y a plusieurs régimes à l'intérieur de ce tout petit livre de narration. Donc il y a en effet le récit que vous avez lu qui commence et qui clôt le livre. Il y a ces échanges qu'on nous donne comme une reconstitution. Bon, après, l'authenticité importe peu, mais qui sont quand même des échanges de textos, entre guillemets, de messages très écrits, que moi, je trouve très artificiels, très difficiles à sentir, à entendre. Vous parliez d'une folle passion, d'un couple, d'une histoire d'amour. Moi, l'histoire d'amour ne m'a pas du tout touchée, ne m'a pas émue, ne m'a pas du tout intéressée. J'y vois une forme de journal pas très abouti, pas, voilà, d'une histoire amoureuse, dans le fond assez bourgeoise, assez ordinaire, qui ne m'a pas beaucoup intéressée. Et j'en reviens au film, parce que ça me pose vraiment le même type de problème. On a affaire à un objet avec un dispositif littéraire et puis éditorial, ça paraît chez Gallimard assez spectaculaire, de la même manière qu'éditeur, le film de POL était sorti en salle, avec un dispositif très particulier aussi, plein de choses, des séquences tournées en noir et blanc, très formaliste, des poupées de Gisèle Vienne. Ça me donne un peu le même effet d'une sorte de chose un peu qui gonfle autour d'une expérience personnelle et qui, à mon avis, si on n'a pas l'émotion de connaître ces deux personnes à qui il est arrivé quelque chose de terrible, se dégonfle et n'a, à mon avis, que très très peu d'intérêt littéraire. Je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment une belle œuvre littéraire. C'est joli, et d'ailleurs c'est un des premiers mots du livre, c'est un joli malentendu, je crois, elle parle de leur première série de vacances à Marie Galante. Et ben moi je trouve que c'est un joli livre, je ne suis pas sûre que ce soit un bel aboutissement pour un livre sur le deuil, par exemple.
Elisabeth Philippe à présent, puis on...
C'est en effet très délicat de parler de ce livre-là, d'une part parce que Paul Tchaïkovski-Lorenz est mort il y a très peu de temps, c'était en 2017.
Non, 2 janvier 2018.
2 janvier 2018, cette année. Oui, ça fait même pas un an, c'est ça. Mmh. Donc c'est compliqué. C'est vrai que ça échappe un peu au discours critique littéraire, à mon sens. Bon, si on s'en tient à la littérature et si on essaye de mettre de côté effectivement ces problèmes de réception, bon, je suis d'accord avec Lucille, mais là c'est même pas tant le fait de connaître ou non Paul Tchaïkovski-Lorenz, ce qu'il représente, etc. C'est que c'est dans la façon même dont l'histoire est racontée que ce couple lui-même forme une sorte d'île dont on est exclu. Hein. C'est, il y a un isolement, c'est la même racine, hein, l'île et l'isolement, et ils sont, c'est une bulle à laquelle on n'a pas vraiment accès, à laquelle elle ne nous donne pas réellement accès dans la façon dont elle la restitue, dans la façon dont elle raconte leur histoire. Ensuite, ce qu'on peut reconnaître, ce que je trouve assez beau, mais encore une fois, je suis un peu embêtée pour parler de ce livre, c'est qu'il est écrit au présent. C'est un récit de deuil écrit au présent, et ça fait écho certainement, et ça convient très bien à Paul Tchaïkovski-Laurence qui, elle le rappelle, disait publier des livres vivants. Il disait les livres que je publie sont vivants. Et par l'usage de ce présent, Emmeline Nandon rend également vivante leur histoire et rend ce livre vivant. Et ce côté, ce qui est assez touchant, effectivement, au travers de ces échanges constants de SMS, c'est qu'on est vraiment, ce sont des fragments d'un dialogue amoureux ininterrompu. Et si on veut filer un peu la référence à Barthes, y a un tel amour entre eux qu'il rappelle cette phrase du fragment d'un discours amoureux. Le sujet amoureux vit toute rencontre de l'être aimé comme une fête. Et ils sont souvent séparés, ils se retrouvent, ils sont toujours impatients de se retrouver. Bon, voilà, mais c'est encore une fois, là, le discours même que je tiens sur cela, il me semble pas tout à fait être lors de la critique littéraire, donc c'est ce qui m'ennuie un peu.
Alors, peut-être pour dire les choses, on avait parlé du film, et vous le rappeliez, Lucine, éditeur, à sa sortie, j'avais dit ma forme de malaise devant ce film, que je trouvais cinématographiquement très peu abouti. Il faut peut-être que je dise, puisqu'on parle de choses intimes finalement, que moi j'ai connu Paul Tchaïkovski-Laurence tout petit, hein, c'était l'éditeur de mon père pendant une vingtaine d'années au moins, et que donc évidemment l'homme, ça me touche, et en même temps moi j'étais très gêné, et aussi sans doute pour ça, la lecture de ce livre, mais même si je ne connaissais pas les deux écrivains de ce livre, parce que malgré tout il y a quand même deux auteurs, comme vous le disiez, puisque c'est cette retranscription ou réinvention, je ne sais pas, des messages que s'envoie le couple. Et moi j'ai pas envie de regarder par le trou de la serrure, je n'ai pas, non mais je vous dis vraiment mon expérience de lecteur, Elisabeth, parce que vous semblez un peu, bon, mais c'est un peu comme ça, d'autant plus quand on connaît l'issue de l'histoire, enfin du coup ça met une charge sur chacun des messages envoyés que je trouve compliqué à appréhender pour le lecteur. Et je pense que il y a bien sûr des correspondances qu'on lit avec grand intérêt, de Voltaire à Beckett, en passant par quelques autres, mais parce qu'elles contiennent des liens avec le travail. Alors il y en a un petit peu dans Marie Galante, mais vraiment c'est à la marge, et c'est quand même surtout une histoire de, une correspondance de l'intimité. Moi je pense d'une façon générale ne pas être le bon lecteur pour ça, j'ai pas envie de ça. Moi je pense que les messages que qu'on s'envoie avec ma fiancée n'ont d'intérêt que pour nous deux, et que les faire lire à d'autres ça n'aurait pas de sens. Mais je pense que tous les amoureux s'écrivent des choses stupides et belles. Et inversement, Lucine Comeau ?
Oui, en fait, la question n'est pas vraiment, même pas en effet, qu'on nous donne ou pas des retranscriptions de dialogues, de faux dialogues, de vrais faux dialogues. C'est la question de l'adresse, en vous entendant. C'est vraiment ça, c'est à qui ce livre s'adresse. C'est une vraie question qu'on se pose quand même si on ne la conscientise pas, à chaque fois qu'on ouvre un livre. Et là, la question se pose tout le long, et c'est ça qui est troublant. Je veux juste citer un autre livre qui a été écrit immédiatement, pour le coup, après la mort de P.O.L. aussi, par Dominique Fourcade, pour le coup, publié chez Paul, qui est un livre qui s'appelle Deuil, qui est tout petit, et Dominique Fourcade est un poète, et c'est un livre de poésie. Il est aussi écrit au présent, c'est intéressant, et pour le coup ça parle de la même manière, de choses très précises. Il est dans sa voiture au début du livre, il reçoit un texto, on lui apprend la mort de son éditeur, mais il en fait une vraie œuvre de poésie, et le livre est encore plus court que Marie Galante, donc encore une fois, c'est même pas la question de la brièveté. Et c'est, à mon avis, une vraie œuvre littéraire sur le deuil. Ça crée, bon, c'est un peu une généralité ce que je dis, mais ça apporte quelque chose qui excède l'expérience individuelle, donc ça fait œuvre. Je ne crois pas que Marie Galante y parvient. Je ne crois pas qu'il veuille même y parvenir, c'est encore un autre problème.
Oui, Laurent Nunez.
Oui. Moi, je crois qu'on parle un peu la même chose, mais on regarde sous un angle différent. C'est-à-dire que, en effet, ça parle peu du métier de l'éditeur, et il n'y a aucun grand nom. Et moi, ça m'a ravi, cette absence de name-dropping.
Non, mais je n'attends pas du name-dropping. Bah, hein.
Parce qu'il aurait pu, il aurait pu citer Camille Laurence, Carrère, etc. Et en faire une sorte de tombeau à l'hommage, une sorte d'hommage à un grand éditeur et tout. Là, en effet, alors c'est vrai que c'est du ressort de l'intime, mais la littérature est du ressort de l'intime. Il y a peut-être c'est moins, c'est une histoire sur un couple. Et en effet, comme dans une sorte de comme dans des théories modernes et quiniardiennes, par exemple, le couple, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'intolérable, d'unique, à laquelle, contre qui la société ne peut pas s'opposer, ni même regarder, qui est intolérable. Et là, en effet, il y a quelque chose d'assez poignant, moi, qui m'a plu, même si, peut-être, à la toute fin, on sait comment ça se termine, il y a un accident, et ensuite, il y a 10 ou 12 pages blanches qui viennent clore le livre. Ces pages blanches sont dues à autre chose qu'à la fabrication vraiment du livre. C'est vraiment... justement, c'est ça. Et je me suis posé la question, c'est quoi ? C'est... Il y a quelque chose qui... Voilà, il va se passer quelque chose après. Moi, c'est un livre qui m'a assez touché dans ce que ça dit de l'intimité de n'importe quel couple.
Lucille Como.
Non, en vous écoutant, je repense aussi à un autre auteur de chez POL, qui est Olivier Cadio, et qui a écrit dans Histoire de la littérature, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième volume, il y a tout un chapitre sur ce qu'il ne faut pas écrire, et précisément, il le dit avec beaucoup de drôlerie, et il dit, en fait, tous les petits malheurs personnels, les petits et grands malheurs ne suffisent pas à faire un livre, et il développe un peu, la mort de votre mère, votre psychanalyse, on s'en fout, en gros, c'est un peu ça. Bon, là, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais je pense qu'avec humour, que il y a du vrai dans cette formule de Cadio et que Marie Galante peut-être appartient à cette catégorie de livres.
Elisabeth Philippe, pour conclure.
Cette catégorie de livres, c'est même devenu un genre quasiment en soi, notamment dans la littérature américaine, puisqu'il y a un mot pour ça, c'est les widow stories, les histoires de veuves. Et j'aimerais terminer en citant deux très belles histoires de veuves. C'est évidemment L'année de la pensée magique de John Didion. Et le livre de Joyce Carol Oates, dont j'ai oublié le titre, Revenir à la vie.
J'en suis sorti.
Oui, non, mais c'est plutôt le titre de Laurent Nunez qui me paraît juste. Je vais le chercher. On aura la réponse dans quelques instants, mais effectivement, très différent.
Très très différent.
Alors, pour le coup, entre Joyce Carol Oates et John Didion.
Oui.
Mais c'est assez fascinant aussi de voir
à quel
point ça fait des
différences. On rentre quand même dans l'histoire. Enfin, il y a un accès, il y a une porte d'accès parce qu'il y a peut-être eu aussi plus de temps qui s'est écoulé entre le moment où le livre a été écrit et puis le décès du compagnon. Donc on peut aussi écrire de très belles choses à partir de ces expériences, évidemment.
Alors, le titre dans quelques minutes, mais avant cela, rappelle que Marie Galante d'Emlène Landon est publiée chez Gallimard. Et c'est Alexandre Fougeron qui réalise cette émission qui me souffle le titre à l'oreille. J'ai réussi à rester en vie.
Merci.
C'était bien ça, en 2011. Bon, mais ça c'était le jingle du coup de cœur. Et le coup de cœur ce soir, il est donné, adressé par Laurent Nunez à La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle de Dominique Rabaté chez José Corti. De quoi s'agit-il, Laurent ?
Il s'agit d'un essai. On parle pas souvent des essais dans la dispute, mais c'est un essai.
Non, on peut pas parler de tout.
Mais moi,
ça tient au roman.
Voilà, c'est ça. C'est un essai sur les romans.
La fiction, souvent.
Et donc, mais là, c'est un essai sur les romans. Donc ça, on triche
pas,
un petit
donc
peu.
C'est passé ce coup-ci.
Dominique Rabaté, c'est un professeur d'université qui travaille sur quelque chose qui m'est cher. C'est l'ultra contemporain. C'est quelqu'un qui prend des risques puisqu'il il travaille sur les écrivains qui publient actuellement. Et finalement, ils sont assez peu nombreux. Et là, il a décidé d'écrire un livre qui est la somme un peu de 20 ans de travaux, qui est La passion de l'impossible, c'est-à-dire et qui travaille sur ce petit objet presque franco-français qu'est le récit. Vous savez, le récit, c'est pas le roman, c'est autre chose, et c'est pas simplement une longue nouvelle, un récit. Et son idée à lui, c'est que il s'est passé quelque chose, il le dit au passé parce que finalement, c'est passé, on peut écrire sur ça. Il s'est passé quelque chose dans le XXe siècle qui fait que, à un moment, on n'a plus été innocent, on n'a plus été crédule devant la possibilité de raconter, devant les personnages, devant le narrateur. C'est ce qu'on appelle l'ère du soupçon. Il s'est passé quelque chose qui a donné des œuvres formidables, qui a donné Louis-René Desforêts, qui a donné les œuvres d'Henri Thomas, qui, peut-être depuis pas lu de Gide. Et il se met à enquêter comment ça se fait qu'à un moment, il y a des écrivains qui ont douté du pouvoir de raconter et qui donc sont mis à raconter autrement. C'est un livre très beau à lire parce que c'est un résumé, c'est pas une deux choses. Ça permet, un, d'avoir une vraie bibliothèque, de savoir quel livre il faut lire au XXe siècle, parce que là, c'est vraiment, ça montre, vous savez, c'est une tératologie, c'est-à-dire, ça montre les monstres. Mmh. C'est tous les monstres du XXe siècle, de tous ces récits déformés, qui sont au contraire de la pure histoire banale, voilà. Et puis, ça montre, maintenant, pour ceux qui veulent écrire, ça montre aussi toutes les possibilités qu'offre l'écriture. Écrire, c'est pas juste faire du Balzac. Vous savez, par exemple, je pensais à ça parce que, Barthes dit qu'on peut plus personne peut écrire comme Balzac. Balzac, c'est lisible, encore on peut, mais c'est pas scriptible. C'est plus, on peut plus personne, tout le monde refuserait du Balzac. Bah pourquoi? Parce que maintenant, parce que le récit est passé et voilà, il faut les rabatter pour comprendre ce qu'est le récit français.
Bah vous donnez envie. La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle de Dominique Rabaté chez José Cortier éditeur. Mais nous sommes bien entrés dans le petit salon. Et ce soir, le Selcomo, le polar pour les nuls.
Oui, vous connaissez cette fameuse collection de livres jaunes et noirs. Eh bien, nonobstant le graphisme de sa couverture qui laisse un peu à désirer parfois, ils peuvent se révéler tout à fait utiles et intéressants. Et c'est donc le cas de ce petit dernier de la collection, le polar pour les nuls, signé Marie-Caroline Aubert et Nathalie Benat, traductrice, critique et éditrice. La première à la série noire chez Gallimard. Et la deuxième directrice de la collection Souris Noire chez Syros. Entre parenthèses, deux femmes pour une somme sur le roman noir, chapeau bas, le domaine est si souvent balisé par des écrivains, éditeurs et critiques mâles. La littérature policière représente aujourd'hui en France un marché considérable, deuxième au sein de la fiction moderne. Il occupe, rappellent les deux autrices du livre, les 10 premières places des meilleures ventes de livres de poche. Un roman vendu sur 4 est un roman policier et pourtant, je cite toujours, la critique littéraire, le terme littéraire est entre guillemets, continue de le bouder. De fait, la critique n'est pas seule en cause, force est de constater qu'en France, la littérature policière est toujours à part sur à peu près toute la chaîne du livre. D'abord, les écrivains qui écrivent des romans noirs à succès écrivent souvent que du roman noir. Elle a ses prix, ses jurys, ses salons spécialisés. Les romans sont publiés dans des collections dévolues. Chaque maison aujourd'hui a sa collection et des nouvelles ouvrent encore aujourd'hui chez certains éditeurs. On peut citer Rouergue Noir, Asphalte Noir récemment. On peut aussi évoquer Aurélien Masson, un des grands éditeurs de littérature policière, parti de chez Gallimard l'année dernière pour justement aller fonder une nouvelle collection noire aux arènes. Après, ils sont réunis chez le libraire dans des rayons spéciaux, reconnaissables souvent aux blocs noirs que forment leurs tranches réunies les unes à côté des autres. Et puis, ils sont bien souvent dans les médias, évoqués par des journalistes et des émissions spécialisées. D'ailleurs, quand on se rend dans le livre Le Polar pour les nuls, à la page La critique dans les médias, répertoriée comme telle au sommaire, on tombe sur 3 petites lignes indiquant une émission sur Radio Libertaire, des vidéos de table ronde tournées par le journal Télérama intitulé Cercle Polar, et puis bien sûr, l'émission de François Angelier sur France Culture, Mauvais Genre. Alors pourquoi cette place à part de la littérature noire? Est-ce justement parce qu'il s'agit d'un genre? Mais entre le roman d'épouvante, le thriller, la comédie policière, le polar rural, le polar urbain, entre Simenon, Christie, Manchette, King ou Montalban, on se demande si la variété des sous-genres ne fait pas s'effondrer la notion même de genre policier. Et puis après tout, la littérature blanche accueille elle-même en son sein bien des genres différents, de l'autofiction au roman historique en passant par la poésie parfois. Est-ce alors parce que ce genre est encore un mauvais genre et que sa fréquentation menacerait encore la bonne littérature? Là encore, on a du mal à envisager pareille hiérarchie. Je ne crois pas que la question du bon goût soit encore un critère de partage entre littérature blanche et noire. Et pourtant, dans leur introduction au polar pour les nuls, les deux autrices sacrifient à ce geste de justification un peu coupable de l'introduction en affirmant « Aujourd'hui, le polar a pour vocation de faire mieux que divertir parce qu'un bon polar, c'est d'abord de la littérature et cela finira bien par se savoir. » Alors si le polar, c'est de la littérature, comment expliquer par exemple que dans une émission comme La Dispute, nous en mettions si peu au programme? Et je prends donc le livre au mot « Sommes-nous les nuls ».
Ah, alors, bon, oui. Bon, moi, je réponds oui. Hein. Je me sens responsable, évidemment. Mais je ne suis pas seul, car la programmation est collégiale. Dans cette émission, nos éditeurs se demandent souvent comment on choisit les livres. Ben, tous les critiques proposent. Ce soir, vous aviez proposé F. Babitz, Laurent Nunez avait proposé Emeline Landon. C'est comme ça qu'on fait. Après, on est d'accord ou pas. Mais alors, sommes-nous nuls?
Je ne sais pas, quand on parle d'un livre de Modiano, quand on parle d'un livre d'Echenoz, quand on parle d'un livre, je ne sais pas si on a déjà parlé de Pierre Lemaitre, mais on parle de polar. Je pense que
les genres, les divisions génériques, à mon avis, sont de plus en plus artificielles. Il doit y avoir quelque chose de marketing, j'imagine, si on continue à les respecter et à mettre d'un côté la littérature noire, de l'autre la littérature blanche. Alors certes, le polar a longtemps eu mauvais genre. C'était à l'université cantonné à la paralittérature. C'est peut-être dû aux très mauvaises traductions aussi romans noirs américains dans la série noire. Peut-être que ça n'a pas joué en faveur du genre, mais c'est vrai que Pierre Lemaitre, pour avoir le Goncourt, tout comme Nicolas Mathieu, le prix Goncourt cette année, dont le premier roman avait été publié en Actes Noirs, la collection noire d'Actes Sud, pour avoir un prix, tous les deux sont passés en blanche. Donc voilà, la rupture, je pense qu'elle elle se joue plus. Il y a une espèce de respectabilité, effectivement, qui continue à coller à la littérature blanche et à échapper à la littérature noire. Mais dans les faits, il y a vraiment, c'est des frontières de plus en plus poreuses, quoi, entre littérature blanche et littérature noire. De toute façon, Echenoz, lui, par exemple, rêvait d'écrire des polars. Son maître absolu, c'est Jean-Patrick Manchette. Oui, on peut se demander pourquoi il n'a pas publié dans une collection de polars. Mais je pense que même ça pose une question très intéressante, parce qu'à un niveau plus général, pourquoi continuer, et c'est une question qui se pose beaucoup ces derniers temps, à mettre d'un côté le roman, de l'autre la non-fiction. On voit que c'est de plus en plus intriqué, entremêlé, et les Goncourt s'arrachent un peu les cheveux avec ça. C'est ce qui notamment a coûté le Goncourt, entre autres, au Lambeau cette année, ou à Emmanuel Carrère. Donc, c'est plus, ça pose vraiment la question de cette division générique qui, à mon avis, n'est plus très, très pertinente.
Mais pourtant,
en tout cas, est rebattue.
Mais pourtant, il y a quand même toutes ces collections spécifiques, dédiées, et de plus en plus.
Mais là, il y a peut-être quelque chose de marketing en se disant, bon, ça apparaît comme de la littérature plus accessible, j'en sais rien, ou populaire, et garder cette étiquette-là, c'est une hypothèse.
Sommes-nous nuls, Laurent Nunez ?
Quand on posons la question autrement, parce que on demandait un jour à Blanchot s'il lisait des romans policiers, et Blanchot répond non, parce qu'il y a trop de police dans notre société. C'est une phrase d'anarchiste, on dirait, mais qui veut dire autre chose. Peut-être que ce mauvais genre, c'est quelques théories, mais peut-être que ce mauvais genre est en fait un genre extrêmement bon, hein, où les méchants sont punis et les bons récompensés. Un monde où on trouve le coupable.
Ça a changé, ça, quand même. Vous avez lu ces 40 dernières années. Manchette, à Didier Deninck, à Marie et Joseph. Enfin,
À chaque fois, vous pouvez en citer un qui a changé. Il y en a 30 où le méchant est puni.
Oui.
Donc vous ne faites que fixer les limites du carré que je vous montre. Deuxièmement, vous comprenez, c'est vrai ça. La deuxième chose, peut-être, moi j'ai rien contre le polar, mais j'ai quelque chose contre le devenir policier du roman. C'est-à-dire que il y a quelque chose de trop facile dans l'énigme judiciaire ou criminelle, quelque chose d'en plus de trop facilement transposable au cinéma. Peut-être que la littérature, c'est pas simplement trouver qui a commis quoi, comment, la recherche d'indices, etc. Il y a quelque chose là-dedans qui tend à l'uniformisation, voilà, qui me dérange plus le devenir policier donc du roman que le polar, qui, comme toute œuvre, s'il est bien fait, il a ses lecteurs. Il suffit d'aller à Quai du Polar pour voir que le polar ne manque pas vraiment de lecteurs.
Alors, c'est vrai que concernant le polar, il y a tellement de choses à dire, évidemment. Il y a des auteurs qui sont reconnus aujourd'hui comme des auteurs importants tout court. Alors, il y a les cas anciens, c'est Simenon, évidemment, l'exemple évident, voilà, en Pléiade, qui l'eût cru quelques décennies plus tôt. Mais avec Rivage Noir notamment, qui a eu Robin Cook. Alors, il y a un Robin Cook qui fait des polars nuls à la chaîne. Et puis, il y a eu un très bon Robin Cook, hélas, mort depuis de nombreuses années, un Anglais réfugié dans l'Aveyron, qui a écrit parmi les polars les plus extraordinaires que j'ai lus, genre J'étais Dora Suarez, par exemple, on est d'accord, Isabelle Philippe. Mais bon, James Ellroy, je pense que tout le monde a compris que c'était un auteur important, quoi, qu'on pense de ce genre-là. Mais je pensais par ailleurs à cette question de la porosité et cette vogue incroyable des polars nordiques. On a, outre Millennium, il y a quand même des auteurs beaucoup plus poreux, si je puis dire, comme Enig Menkel, qui a écrit aussi bien du théâtre, du roman, on va dire classique, et beaucoup de policiers. C'est le cas aussi d'Arnaldur Indridason. Enfin, il y a quand même ça toute une flopée. Alors, ça donne des séries, ça donne des films qu'on regarde aussi. Il y a quelque chose aussi qui est étonnant, mais je pense que la dimension marketing n'est pas pour rien. Polar nordique, ça parle à tout le monde aujourd'hui, Lucille Como.
Oui, je relisais par ailleurs je relisais le texte que Aurélien Masson avait écrit à l'époque où il était chez Série Noire sur la littérature noire. Et c'est drôle parce que c'est un texte qui est encore emprunt. Je pense qu'il l'a écrit dans les années 2006-2007 quand il a dû arriver à la direction de la collection. Je ne sais plus quelle année c'était. Et il écrit quelque chose de très marqué, justement, idéologiquement. Je pense à ce que vous disiez, Laurent. Il écrivait « La série noire, c'est les bas-fonds, les bas-côtés et autres contre-allées, tous ces lieux et ces individus qui n'ont pas toujours droit à la lumière ou alors celle des médias pas toujours bien attentionnés et souvent caricaturaux. » Et en effet, il y a quelque chose de l'entretien d'un mythe qui n'a probablement plus vraiment de raison d'être d'un point de vue idéologique et esthétique. Je pense qu'en effet que la porosité elle est présente, mais qui se maintient. Je pense en effet qu'il y a un argument à la fois commercial et probablement nostalgique envers une période où la littérature noire était vraiment quelque chose qu'on lisait peut-être un peu
c'était
en cachette.
Du pulp, voilà, je pense qu'il y a
de
ça. Ouais.
De la même manière, dans le polar pour les nuls, il y a une toute petite rubrique où acheter ces polars, ou je sais plus comment ça s'appelle, quel libraire à quel libraire parler. Et il y a juste deux lignes qui disent. Allez chez votre libraire du coin, achetez les trucs d'occasion. Enfin, ça entretient une sorte de mythe, d'une mise en scène de la lecture, en fait.
Elisabeth Philippe.
Non, et pour ce qui est des critiques, c'est vrai qu'il y a toujours des critiques attitrées pour le polar. Mais il y a un côté aussi cercle d'initiés, c'est-à-dire que c'est pas... Je pense que c'est des deux côtés. Peut-être qu'il y a un petit mépris des spécialistes, entre guillemets, de littérature blanche pour le polar. Mais de l'autre côté, il y a un côté chasse gardée aussi des spécialistes de polar. C'est assez difficile de rentrer sur leur pré carré. Donc, c'est un peu des deux côtés. Mais bon, c'est aussi assez amusant.
C'est toujours un plaisir honteux aussi pour les critiques très installées de lire du polar,
tout,
vous croyez?
Je pense que c'est vraiment, c'est plus le cas. Enfin,
on ne veut pas les télé dans les colonnes. Non, c'est fini quand même, ça. Laurent Nunez.
Oui, dans le journal d'Elsa Triolet, elle raconte qu'Aragon et elle, ils lisent des polars, mais la nuit dans le lit en cachette.
Beauvoir et Sartre aussi adoraient les polars. Oui, oui.
Donc, en effet, c'est un plaisir caché. Gide a du mal à reconnaître qu'il aimait beaucoup Le Chien jaune de Simenon. En effet, c'est une paralittérature, mais justement
fini,
qui parfois
ça.
Se permet plus de choses que la littérature normale.
Ouais, vous dites fini. C'est fini, Elisabeth, mais moi, là, j'ai regardé depuis septembre, on n'en a pas fait un seul à la dispute. Ce qu'on a fait qui s'approchait en effet le plus de la littérature policière, ce sont les romans les plus populaires peut-être qu'on a abordés, notamment le fameux Adeline Dieudonné qui peut se rattacher à du Stephen King ou à du roman un peu comme ça, et Leurs enfants après eux, en effet, qui a un côté de Nicolas Mathieu, donc, qui a reçu le prix Goncourt, dont on sent la matière qui est affiliée au roman noir ou au polar. Mais c'est vrai qu'on n'en fait jamais. Hein. Moi, je me pose assez régulièrement la question du pourquoi.
On a fait Fred Vargas, ça s'était pas très bien passé la dernière fois.
J'imagine.
Il faut quand même aussi le rappeler. Et puis moi, mon auteur...
Mais si vous invitez Florent Georgesco pour parler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bon, ça va devenir un mythe hein, maintenant, Florent Georgesco, qui existe vraiment.
C'est déjà un mythe.
C'est déjà un mythe. Moi, mon auteur de polar préféré, c'est Yves Ravet. Aux éditions de Minuit.
Oui, ben voilà. De toute façon, Minuit, c'est peut-être la plus grande maison d'édition
non,
de polar.
Mais c'est ça, faut quand même
ça a
le
commencé
dire.
Avec Croque Grillée et Les Gommes. Enfin,
ouais.
Voilà, c'est...
Ouais. On est d'accord là-dessus. Mmh. Lucille Como. Donc, le polar pour les nuls, vous recommandez. Hein,
oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est très bien fait. Bon, après, c'est beaucoup plus large que juste la question de la littérature. Il y a beaucoup de choses sur l'adaptation à la fois en film et en série télévisée. Donc, c'est vraiment une somme. C'est assez. C'est très compilé hein, comme type de livre. Il y a un chapitrage un peu contraignant. Mais oui, c'est très
une
utile.
Une mine.
En tout cas, tout à fait.
Bon, et ben voilà. Un autre conseil de lecture. On n'a pas parlé de Daniel Pennac aussi, passer de la noire à la blanche avec Benjamin Malocène. C'était un des cas comme ça de transfert assez dans une même maison, de passer de la noire à la blanche, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. C'était assez intéressant. Moi j'aimais bien Michael Connelly. Mais ça, c'est gros polar,
c'est
ça.
Bah,
ouais,
c'est super.
Mais c'est toujours bien. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Hein.
On rappelle
Le Poète.
Le Poète, c'était vachement bien.
Ah,
c'était très
on est d'accord. On a les mêmes goûts en polar, Elisabeth Philippe.
Jim Thompson.
Ah oui. Bon, on va faire une émission polar.
Mais oui, pourquoi pas. Une
avec plaisir. Mais il faudrait pas que ce soit une spéciale, voyez.
Bah oui, voilà, faudrait que ça se glisse dans les colonnes.
Bon, on va être plus attentifs, nous aussi, à la publication de romans policiers.
Apparemment, Hervé Lecor à la rentrée en janvier chez Rivage et. Un chef-d'œuvre.
Bon, on l'inscrit au programme. Oui, Laurent, dernier mot.
Il y a un essai de Pierre Bayard sur les petits nègres. Il va rechercher le vrai coupable.
Oui, ça c'est évidemment, plaît, parce qu'il y a des indices, il y a un mystère, et puis il y a un coupable à la fin. Ça s'appelait Laurent Nunez, je parle du critique littéraire.
Vous l'avez découvert.
Bien sûr. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. Là aussi, il y a des questions, et des fois, il y a des réponses. Vous voyez, c'est complètement fou. Et Sarah Dion, chaque soir, d'abord nous rappelle la question de la veille et nous donne sa réponse. N'écoutez pas, peut-être Laurent Nunez.
Quel est le nom de cette première édition de la Biennale d'art contemporain de Strasbourg?
Et la réponse
est Touch Me.
Touch Me. Ce soir, des invitations à gagner pour une exposition. Behind the Game, une expo au cœur d'Assassin's Creed. Là aussi, je pense qu'il y a un énigme. C'est jusqu'au 6 février à la Gaîté Lyrique à Paris. Quelle est la question, Sarah?
Quel célèbre compositeur, auteur de nombreuses opérettes, a dirigé en son temps l'actuelle Gaîté Lyrique?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute sur laquelle vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, 19h, en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Une dispute consacrée aux séries en compagnie de Lucille Como, Mathilde Wagman et Olivier Joyard. À notre affiche, The Marvelous Mrs. Maisel que nous aimons tant, d'Amy Sherman Palladino, Hippocrate de Thomas Nettie, Escape at Dannemora de Michael Tolkien et Brett Johnson, et un coup de cœur de Lucille Como pour Narcos Mexico.